Depuis quelques semaines maintenant, je vous ai entraîné dans la parole de Dieu. On avait regardé depuis la fin de l'année dernière. Alors c'est un vrai marathon là, hein, qu'on est en train de suivre. Mais où est-ce qu'il va nous mener, Pascal, avec tout ça? Ben, je n'ai pas encore fini de parler de la parole de Dieu. Vous verrez à la fin sur quoi on va déboucher. On va déboucher sur quelque chose. Je vous laisse la surprise. En attendant, un petit résumé de tout ce qu'on avait vu. On avait vu que Jésus-Christ était la parole de Dieu manifestée en chair. C'est la parole de Dieu qui a établi tout ce qui existe. C'est la parole de Dieu qui la soutient. Si Jean nous a parlé du vélo qu'il avait, qui allait périr, qui allait se dégrader, et c'est un petit peu comme ça. Quand on fait quelque chose, nous autres les hommes, et quand Dieu fait quelque chose, c'est différent. C'est la parole qu'il soutient. Il a mis des lois en place dans l'univers entier que les hommes curieux avec esprit scientifique cherchent à sonder tous les jours. Et ces lois sont stables, parfaitement stables. Elles sont une image de la parole de Dieu qui est à une portée éternelle. Toutes choses sont assujetties. J'ai reçu une petite carte de Dorly Emilio qui a ce petit extrait du psaume 119. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre, elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui. Car toutes choses te sont assujetties. On avait vu également la supériorité de la parole de Dieu écrite, les avantages que cela avait pour nous, les hommes, aujourd'hui, au XXIe siècle, que ça attestait les prophéties, que c'était facile à conserver, facile à transmettre, facile à diffuser, facile à étudier, à mémoriser, à dupliquer. Et que c'était finalement très utile également pour pouvoir situer toutes les personnes qui pouvaient avoir des révélations, etc. Est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu? On a vu également la fiabilité de la parole de Dieu la semaine dernière. Est-ce que cette parole qui nous est transmise sous forme écrite, est-ce qu'elle est réellement quelque chose de fiable, de sûr? Donc on s'est concentré sur les paroles du Nouveau Testament. Sur les paroles et l'enseignement de Jésus-Christ, on avait regardé ça, à la fois que ce soit les évangiles, les paroles de Jésus-Christ, que ce soit les épîtres, la doctrine, tout cela vient de l'enseignement, vient de Jésus-Christ et repose sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est un personnage historique qui est venu dans le monde à un instant donné, au bon moment. Accomplir le plan que Dieu a prévu, l'évangile s'enracine dans notre histoire. On avait vu ça également la semaine dernière. On avait vu que le témoignage de Jésus-Christ reposait sur Dieu, qu'il avait rendu témoignage, sa voix s'était fait entendre dans les cieux, reposait sur les miracles qu'il avait accomplis, reposait sur le témoignage des hommes qui n'avaient jamais entendu quelqu'un parler comme Jésus-Christ, reposait sur l'accomplissement des prophéties qu'il avait réalisé, reposait également sur son propre témoignage. Lui-même avait dit, avant qu'Abraham fût, je suis, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Ce témoignage de Jésus-Christ avait été après communiqué, retransmis par les apôtres qui avaient diffusé les messages de l'Évangile partout, et puis on avait vu que bien sûr, ils l'avaient mis par écrit, qu'ils avaient conscience même que les textes qu'ils écrivaient allaient devenir la parole de Dieu. Ils avaient toute l'autorité apostolique pour rédiger des textes qui allaient faire autorité après leur disparition. Ils ont organisé eux-mêmes la transmission du message de l'Évangile, parce qu'il y avait des faux docteurs, il fallait lutter contre les hérésies, parce qu'il fallait faire cette évangélisation du monde entier. C'était un gros travail, et parce qu'on avait un super message à transmettre. L'évangile, c'est le plus beau des messages que les hommes aient pu entendre, également pour instruire les disciples. Après eux, on a eu la constitution du canon et que cette parole avait été recueillie, ces textes avaient été recueillis, choisis, et unanimement, les églises ont retenu tous les textes qui allaient constituer le canon du Nouveau Testament, des textes qui soient proches des apôtres, qui soient largement diffusés, qui soient pas en contradiction avec aucun de la révélation de Dieu jusqu'à présent, et qui soient donc unanimement acceptés par chacun. Et donc un texte qui a été largement bien conservé jusqu'à présent, des centaines, des milliers de fragments, de parchemins nous sont parvenus. Et compilés, ils donnent un texte qui est très très fiable. Et s'il y a quelques variantes, ma foi, elles sont marquées dans nos Bibles, à nous de pouvoir évaluer si elles sont significatives ou pas. Aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect de la parole de Dieu, mais finalement, à quoi ça va servir? À quoi est-elle utile dans ma vie, puisqu'elle est si bien conservée, puisque c'est un si beau message, et maintenant, quelle importance ça va avoir pour moi? Alors, on va lire le premier épître à Timothée, chapitre 3. C'est le deuxième, c'est-à-dire... Bible. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous faire la lecture du deuxième à Timothée, donc 2 Timothée 3. On va lire, c'est juste 2 Timothée 3, 16, la bonne adresse que peut-être beaucoup d'entre nous connaissons, mais on va la situer dans le contexte du chapitre 3 de la deuxième à Timothée. Qu'est-ce qu'on a envie de lire? Pardon, tu veux lire?
Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.
Voilà le verset particulier qui nous intéresse, mais on va tu vas lire tout le chapitre. 1 Timothée, 2 Timothée 3, tout le chapitre. On voit le contexte.
Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les faibles femmes chargées de péché, agitées des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même, ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposée à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelles persécutions n'ai-je pas supportées? Et le Seigneur m'a délivrée de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.
Voilà, merci. Donc, on a donc ces deux versets, le verset 15 et 16, donc, qui font référence à ce que des fonctions, des rôles, de l'utilité de la parole de Dieu. Au verset 15, « Dès ton enfance, dit-il à Timothée, Paul, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi, par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Alors, quelques remarques sur le vocabulaire que nous avons ici. Donc, peuvent te rendre sage, elles peuvent, ces écritures, te rendre sage à salut, elles peuvent, elles sont capables, elles ont la possibilité, elles ont la capacité. On trouve ce mot dans le Nouveau Testament, si vous parcourez votre Nouveau Testament, et vous verrez que le plus souvent, c'est l'inverse du slogan qu'avait employé le président des États-Unis lors de sa première campagne. Il avait dit « Yes, we can ». Et là, le message global du Nouveau Testament, c'est « No, you cannot ». Vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas capable. Et il est souvent utilisé pour souligner l'incapacité de l'homme à faire ce qu'il voudrait ou à faire toutes sortes de choses. Mais là, on a l'écriture qui est capable de rendre sage pour le salut par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas de la sagesse grecque qu'il s'agit ici, mais là, c'est la sagesse selon Dieu, la sagesse qui est conforme au salut qui est en Jésus-Christ. Et on peut remarquer ici que il s'adresse à une personne, Timothée, qui a grandi avec l'enseignement de la parole de Dieu par sa grand-maman, par sa maman. Et Paul l'encourage encore à persévérer dedans. Ce n'est pas quelque chose que l'on a acquis une fois pour toutes, mais c'est un processus continu qui doit être entretenu dans nos vies. Et si nous avons eu la chance dans notre jeunesse, dans notre passé, d'être instruits de la parole de Dieu, de la connaître, de l'avoir lue, eh bien, il faut persévérer. C'est quelque chose qui est un processus continu. On n'a jamais arrivé à dire « maintenant je n'ai plus besoin de lire la Bible, je connais ces choses ». Verset 15. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc c'est un mot que sans doute vous connaissez, vous avez entendu parler. Théo, c'est Dieu, et pneu, c'est l'air, c'est le souffle, comme le pneumatique. Théo, pneutos, on pourrait traduire insufflé de Dieu, soufflé par Dieu. Dieu est la source d'inspiration des écritures. Si vous avez fréquenté des artistes ou des gens qui font ils ont besoin d'être inspirés. Il y a des fois, ils ont inspiré, ils vont pouvoir faire des choses. D'autres fois, ils n'ont pas d'inspiration. Et une même source d'inspiration va se manifester de différentes formes chez les hommes qui sont inspirés. Et c'est un petit peu comme ça. Pour la parole de Dieu, les auteurs ont été inspirés par Dieu lui-même pour écrire ce qu'ils avaient à écrire. Hein. L'écriture ici, c'est bien sûr l'Ancien Testament à ce moment-là. Paul pense à l'Ancien Testament. Bon, on a vu tout à l'heure que déjà de son temps, bon nombre de textes étaient considérés au même plan que les Écritures. Pierre considérait les écrits de Paul comme les Écritures. Et Paul citait l'Évangile de Luc comme étant les Écritures, sur le même niveau que les Écritures. Et également une question de l'homme de Dieu, alors c'est anthropos, il ne s'agit pas de l'homme le masculin, il s'agit de l'humain. Et donc l'homme de Dieu, c'est à la fois l'homme, la femme, également l'enfant, la personne âgée, ça désigne toute l'humanité. Hein. Donc tout le monde est concerné par la parole de Dieu. Il y a également la façon dont on traduit cette phrase, mais le verbe « être » n'est pas dans le texte grec. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. On peut aussi comprendre « toute écriture inspirée de Dieu est utile ». Si on voit le texte de cette façon-là, on a un enseignement de plus, c'est que tout l'Ancien Testament, toute la Bible est utile. Il n'y a aucune partie, on peut dire, c'est inutile. Quand on prend la tranche de nos Bibles comme ça, des fois il y a des zones qui sont plus sombres que d'autres. Vous avez peut-être regardé. Et puis les textes qu'on va souvent voir, ben, c'est des textes qui sont sombres. Et puis il y a des zones qui sont tout blancs, plus clairs. Ben, ceux-là, ils ne sont pas souvent visités. Toute l'écriture est utile. Tout est utile. Alors, en poussant le bouchon plus loin, on peut dire que toute autre chose est inutile. Les autres lectures, les autres études seront inutiles en tant que homme, femme, enfant de Dieu. Le reste ne sera pas très utile pour nous instruire, nous corriger, nous convaincre. Ce qui est vraiment utile, ce qui est vraiment le plus important, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alors, utile pourquoi ? Vous avez vu dans la liste, là, qu'est-ce que vous voyez dans la liste de Paul à ce moment-là ? Il écrit à Timothée. Est-ce que vous avez vu ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le texte sous les yeux, qui peut citer...
Instruire,
oui.
Convaincre.
Pour convaincre.
Corriger.
Enseigner également. Donner un enseignement, donc... elle est utile pour convaincre les gens qui sont pas, pour ceux qui sont indécis, pour corriger ceux qui sont dans l'erreur. Et également, quand on voit la phrase qui suit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, bien sûr, Timothée devait s'inclure là-dedans. Et donc, c'est vrai que ça peut être utile pour les autres, mais c'est surtout utile pour soi-même. Pour que soi-même, on soit enseigné, soi-même, on soit instruit dans la justice, dans les choses de Dieu, soi-même, on soit corrigé. Parce que des fois, on ne comprend pas les choses comme Dieu voudrait qu'on les comprenne. Et donc, les lectures vont nous faire ce travail de nous enseigner, de nous convaincre et de nous corriger. Alors, on va prendre un exemple. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, qui est-ce qui peut lire le verset 1 à 11 ? Matthieu 4, 1 à 11, on a le plus bel exemple qui peut être donné par rapport à cette liste que Paul nous cite, c'est Jésus-Christ.
Alors Jésus fut amené là,
oui, c'est
par
ça.
L'esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Mais après jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit : Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit : Il est écrit : L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit : Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit : Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront dans les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit : Il est aussi écrit : Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit : Retire-toi, Satan, car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu,
tu le serviras lui seul. Alors le diable lui laissa. Et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servirent.
Alors vous voyez dans ce beau texte qui nous est rapporté, la façon dont Jésus-Christ a lutté, a répondu à Satan qui venait le tenter. Il a fait quoi ? Il a cité simplement les Écritures. Il a cité la Bible et la seule citation de cette Bible lui a donné victoire, la victoire sur Satan. Alors Satan, c'est un ange déchu qui est très puissant et vous comme moi serions entièrement démunis face à lui. On ne peut pas imaginer à un seul moment de pouvoir faire quoi que ce soit, mais Dieu a mis à notre disposition une grande puissance qui a été démontrée ici par Jésus-Christ, la parole de Dieu. C'est une parole qui est ici, dont on voit une démonstration de sa puissance. Alors regardons d'un petit peu plus près. On a Jésus-Christ qui a jeûné pendant 40 jours et donc il a faim au bout de 40 jours. C'est à ce moment-là que le tentateur s'approche. Il est écrit, ordonne, si tu es fils de Dieu, ordonne ces pierres de devenir des pains. Et Jésus répond, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est une parole qui est citée du Deutéronome et qui par laquelle Moïse explique une des rôles de leur errance pendant 40 jours dans le désert. Ils devaient apprendre à savoir qu'ils devaient vivre de la parole de Dieu et pas seulement de nourriture terrestre. Est-ce que c'est valable encore pour nous aujourd'hui ? Est-ce que nous avons possibilité de nous nourrir de cette parole de Dieu ? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et comment avoir ces paroles qui sortent de la bouche de Dieu ? Ben, le plus facile, c'est quand même de lire la Bible. Alors, vous avez peut-être fait cette expérience que de faire une lecture journalière le matin à votre réveil, lire la parole de Dieu. Et elle n'est pas sans influence, vous le savez, sur le reste du déroulement de la journée. Vous avez peut-être fait, comme moi aussi, l'expérience de cesser de lire la parole de Dieu le matin, et vous voyez au bout de quelques temps que ce n'est pas sans incidence sur la façon dont se déroule la journée. Ce ne sont pas de bonnes expériences à faire que de se priver de la parole de Dieu quand on a goûté ce qu'elle a porté. C'est une bonne expérience à faire que de découvrir les bienfaits de la lecture journalière de la parole de Dieu, parce que chaque jour on prend son repas, chaque jour c'est bon de consacrer un peu de temps à la lecture de la Bible. C'est pas une drogue. Quand j'étais jeune converti, j'avais remarqué que quand je cessais de lire la Bible, ma spiritualité diminuait, ou du moins les choses de Dieu m'intéressaient de moins en moins. Et je me dis, mais c'est une drogue que tu as là, pour que dès que tu arrêtes, ben voilà, tu as besoin de ça tout le temps. Non, c'est pas une drogue. On peut voir comme si c'était un médicament qu'on a des fois des traitements à vie. Mais la parole de Dieu le présente simplement comme une nourriture pour notre âme, tout simplement. Et on a besoin, pour être en forme et en bonne santé, de se nourrir tous les jours. De se nourrir tous les jours, c'est quelque chose qui est important. La suite de cette confrontation, alors là on voit le diable qui lui aussi va se saisir de la parole de Dieu. Le diable transporta dans la ville sainte Jérusalem, le place en haut du temple. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des anges à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ah, voilà. Jésus qui, le diable qui utilise les mêmes armes que Jésus, il cite la parole de Dieu. Oui, c'est là où on voit l'importance de bien connaître la Bible, et le Seigneur Jésus la connaissait bien. Cet extrait du psaume 91, alors est-ce que cette situation est bien appropriée et est-ce qu'elle est juste? Alors si on va voir dans notre Bible le psaume 91, on va s'apercevoir qu'il y a des choses qui ont été soigneusement omises par l'adversaire de Jésus. Alors, on va pas, pour gagner un peu de temps, on ne va pas lire le début du psaume. Verset 9. Tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Voilà un passage qui a été omis pour Jésus-Christ, de te garder dans toutes tes voies. Quelles étaient les voies de Jésus-Christ? Pourquoi il était là? Pourquoi il était sur la terre? Il était sur la terre pour venir mourir à notre place. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion, sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je serai avec lui dans la détresse. Et je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je serai avec lui dans la détresse. Et Dieu était avec Jésus-Christ dans la détresse pendant qu'il était là en train de souffrir de la faim, pendant qu'il était éprouvé. Dieu était avec lui et c'est Dieu lui-même qui devait le délivrer. Alors on voit une citation où Satan avait soigneusement oublié de préciser qu'il te gardera dans toutes tes voies, et qu'il avait oublié également que Dieu était aussi avec nous dans les détresses, et que c'est lui qui a porté la délivrance, et qu'on n'avait pas besoin du secours de Satan à travers tout cela. Alors Matthieu chapitre quand ce qui concerne le dernier tentation de Jésus-Christ, le diable le transporta sur une montagne élevée, il montra tous les royaumes et toute la gloire. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus dit, retire-toi de moi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voilà, Satan qui voulait faire chuter Jésus sur le premier des commandements qu'on avait vu là il y a deux semaines. Le premier des commandements. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors là, c'était quand même trop fort. Et c'était, comme on pourrait dire, trop gros ce que demandait Satan, et donc là Satan a laissé le Seigneur Jésus, et donc on voit après les anges qui sont venus servir Jésus-Christ, le secours vient de l'Éternel, et donc Dieu avait envoyé des anges pour venir au secours de Jésus-Christ dans sa détresse à ce moment-là. Voilà donc une illustration de ce texte, l'utilité de l'Écriture pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. On voit comment le Seigneur s'en est servi pour répondre à notre adversaire, à Satan. Alors, que cela nous encourage, oui, cette Écriture, elle est utile. On a vu également que c'est une nourriture pour tous les jours, alors que nous puissions mettre cela en pratique, encourager à lire la parole de Dieu, hein, à la prendre comme une nourriture, comme ce qu'elle déclare elle-même être pour la gloire de Dieu et pour notre bien à chacun d'entre nous. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour cet encouragement à saisir la puissance qui est dans ta parole. Merci parce qu'elle peut nous instruire, elle peut nous corriger, elle peut nous convaincre et on le voit aussi, elle peut nous protéger. Elle peut nous protéger face à tous nos ennemis. Merci pour le secours, merci pour la délivrance que tu apportes dans toutes nos détresses. Et merci parce que ta parole est puissante et infaillible. Aide-nous, Seigneur, à nous l'approprier, à la recevoir dans un cœur bien disposé, qu'elle puisse porter du fruit, Seigneur. Augmente notre foi dans cette parole, augmente notre désir de nous conformer à ce que nous comprenons qu'elle veut nous enseigner. Garde-nous, Seigneur, pour cette semaine, dans le beau nom de Jésus. Garde ce que nous aimons, ce nos proches également. Amen.